métaboliques essentielles. Elle nous permet de fabriquer des glucides et des lipides pour notre corps et de décomposer les protéines. Au-delà de son incidence sur la santé de la peau, des ongles et des cheveux, une carence en biotine peut provoquer des états dépressifs, des somnolences, une fragilité aux infections, des troubles nerveux et une augmentation du taux de cholestérol. Mais attention, quand on parle de carence en vitamines, la liste des symptômes est impressionnante, quelle que soit la vitamine. Il y a donc de grandes chances pour que chacun d'entre nous se sente concerné par un point ou un autre. Sachez-le, on peut avoir un rhume ou être un peu fatigué sans pour autant souffrir d'un déficit en biotine. Et ce qui augmente le taux de cholestérol, c'est plus la grosse portion de lardons sur les pâtes à la carbonara que l'œuf à la coque un peu trop mollet qui nous aura délivré une portion d'avidine au petit déjeuner. La carence en biotine est en revanche plausible chez certaines populations à risque, parmi lesquelles les patients sous traitement antibiotique prolongé, les gros consommateurs d'alcool, les personnes ayant subi une ablation d'une partie de l'intestin grêle, les dialysés ou ceux qui prennent certains médicaments. Tous ont besoin de plus de biotine que leur alimentation ne peut leur en apporter. Autre groupe à risque, bien qu'en bonne santé, les femmes enceintes, car le fœtus consomme autant de biotine qu'un vieux frigo consomme d'électricité. Aucune étude n'a encore su dire avec précision dans quelle mesure nos bactéries intestinales nous fournissent de la biotine. Nous savons qu'elles en produisent et que des substances ennemies des bactéries, à l'instar des antibiotiques, peuvent entraîner une carence. Une personne d'entérotype Prévotella pourrait-elle être plus sujette à une carence en biotine qu'un type bactéroïde? Voilà un projet de recherche sûrement très passionnant. Mais comme nous n'avons connaissance des entérotypes que depuis 2011, il y a sans doute encore d'autres questions auxquelles nous devons répondre avant. Les bactéries bactéroïdes ne sont pas seulement efficaces parce qu'elles ont un bon rendement, mais aussi parce qu'elles travaillent main dans la main avec d'autres bactéries. Certaines espèces ne survivent dans l'intestin que parce qu'elles traitent les déchets de leurs collègues bactéroïdes. Ces dernières sont bien plus efficaces quand leur lieu de travail est propre et bien rangé, et les petits gars des ordures ménagères sont sûrs de ne pas se retrouver au chômage. Au niveau suivant, les composteurs entrent en jeu. Ils ne se contentent pas d'exploiter les déchets, ils s'en servent aussi pour fabriquer des produits que les bactéries bactéroïdes peuvent utiliser à leur tour. Dans certaines voies métaboliques, les bactéries bactéroïdes se glissent elles aussi dans le rôle des composteurs. Quand elles ont besoin d'un atome de carbone, hop, elles attrapent un de ceux qui se trouvent dans l'air de l'intestin. Ce n'est pas difficile. Le carbone est l'un des déchets de notre métabolisme. Prévotella. La famille Prévotella est un peu l'antithèse de la famille bactéroïde. D'après les études menées, c'est chez les végétariens qu'elle est la plus fréquente. Mais on la rencontre aussi chez les personnes qui ont une consommation raisonnable de viande, ou même chez les vrais fans de bidoche. Ce que nous mangeons n'est pas le seul facteur qui détermine la colonisation de notre intestin. Nous y reviendrons. Les bactéries Prévotella ont elles aussi des collègues avec lesquels elles aiment bien faire équipe. Les bactéries Desulfovibrionales. Souvent dotées de flagelles qui leur servent d'hélice pour se déplacer, celles-ci, tout comme les bactéries Prévotella, sont douées pour passer nos muqueuses au peigne fin à la recherche de protéines utilisables. Elles peuvent ensuite les manger ou s'en servir pour construire ce qui leur chante. Le travail de la famille Prévotella produit des composés du soufre. On connaît cette odeur caractéristique des œufs durs. Si les bactéries Desulfovibrionales ne passaient pas par là avec leurs petits flagelles tourbillonnants pour récupérer bien vite tout ce qui sent mauvais, les bactéries Prévotella auraient l'air moins malins et baigneraient bientôt dans leur propre bouillon puant. À noter cependant que ce gaz n'est pas nocif. Si notre nez fait le difficile, c'est juste par prudence, car une concentration extrême finirait par devenir dangereuse. La vitamine spécifique de cet entérotype, qui contient elle aussi du soufre et dégage une odeur prononcée, c'est la thiamine, du grec théion, soufre. également appelée vitamine B1. C'est l'une des vitamines les mieux connues et les plus importantes. Notre cerveau n'en a pas seulement besoin pour bien nourrir les cellules nerveuses, mais aussi pour les envelopper de l'extérieur dans une gaine de graisse isolante. Voilà comment une carence en thiamine peut être à l'origine de tremblements musculaires ou de pertes de mémoire. Un grave déficit en vitamine B1 est responsable d'une maladie décrite dès 500 après Jésus-Christ, dans le monde asiatique, le beriberi. En singalais, une langue du Sri Lanka, beriberi signifie « je ne peux pas, je ne peux pas ». Les personnes touchées dont les nerfs sont alors endommagés et les muscles atrophiés ne peuvent plus marcher correctement. Aujourd'hui, on sait que le riz blanc poli industriellement ne contient pas de vitamine B1. En cas d'alimentation déséquilibrée et très peu variée, une carence en vitamine B1 peut conduire aux premiers symptômes en quelques semaines seulement. Au-delà des perturbations du système nerveux et des troubles de la mémoire, une carence moins importante peut aussi entraîner une plus grande irritabilité, des maux de tête fréquents et des problèmes de concentration. À une étape avancée, les patients peuvent présenter une tendance aux œdèmes et à l'insuffisance cardiaque. Là encore, rappelons-nous que ces problèmes peuvent avoir de multiples causes. Ils sont surtout inquiétants quand ils sont fréquents et prononcés. Et il est rare qu'ils ne soient causés que par un déficit en vitamines. Les symptômes liés à des carences nous aident surtout à comprendre où intervient la vitamine en question. En général, à moins que vous ne vous nourrissiez que de riz poli ou d'alcool, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut. Nous découvrons aussi que nos bactéries peuvent nous aider à nous approvisionner correctement, et cela fait d'elles bien plus qu'un amas de péteuses sulfuriques à hélice. C'est justement ce qui est passionnant. Ruminococcus. Quand on parle de cette famille, on ne peut pas dire que les grands esprits, des scientifiques, se rencontrent. C'est la pomme de discorde. Les uns, ceux-là même qui ont vérifié l'existence des entérotypes, n'ont pu trouver que les familles Prévotella et Bactéroïde. Point de Ruminococcus. Les autres ne jurent que par ce troisième groupe. D'autres encore pensent qu'il y aurait aussi un quatrième groupe, voire un cinquième, un sixième, etc. C'est le genre de débat qui, pendant un congrès, peut vous gâcher votre pause café. Mettons-nous d'accord sur ce point. Disons qu'il se pourrait que ce groupe existe. Nourriture préférée supposée, les parois cellulaires des végétaux. Collègues possibles, les bactéries Akkermansia, qui décompose le mucus et absorbe assez rapidement le sucre. Les bactéries Ruminococcus produisent une substance, l'hème, dont le corps a par exemple besoin pour fabriquer du sang. Vous connaissez tous un personnage célèbre chez qui on aurait sans doute pu diagnostiquer un trouble de la synthèse de l'hème. Je veux parler du comte Dracula. En Roumanie, son pays d'origine, on recense une mutation génétique dont les symptômes sont entre autres une allergie à l'ail et au soleil et des urines couleur sang. La coloration des urines en rouge indique que la production de sang ne fonctionne pas correctement et que la personne atteinte élimine par cette voie des précurseurs de l'hème. Autrefois, l'explication d'un tel symptôme était simple. S'il pisse rouge, c'est qu'il a bu du sang. Aujourd'hui, les patients atteints de cette mutation génétique sont traités et ne jouent plus le premier rôle d'une histoire d'épouvante. Qu'on soutienne ou non l'existence de la famille Ruminococcus, ces bactéries sont en tout cas présentes dans nos intestins. Ça ne nous fait donc pas de mal d'en savoir un peu plus sur elles et sur Dracula et la palette de couleurs urinaires. Entre autres problèmes, les souris dépourvues de germes intestinaux présentent par exemple aussi un dysfonctionnement de la production d'hème. Il n'est donc pas absurde de penser que les bactéries jouent ici un rôle important. Voilà, notre voyage à la rencontre du petit peuple des microbes intestinaux a commencé. À travers leurs gènes, ils constituent pour nous un énorme pool de compétences. Ils nous aident à digérer, ils fabriquent pour nous des vitamines et d'autres substances dont nous avons besoin. À la recherche de motifs récurrents, nous avons entrepris de former des groupes entérotypiques. Pourquoi ? Parce que nous avons dans le ventre 100 billions de micro-organismes et qu'il y a de fortes chances pour que cette présence laisse des traces sur nous. Il est donc temps d'aller plus loin et d'observer plus en détail les effets perceptibles qui en découlent. Comment ces bactéries interviennent-elles dans notre métabolisme? Quelles sont celles qui nous sont bénéfiques et celles qui nous nuisent? Chapitre 16. Le rôle de la flore intestinale. Nous racontons parfois à nos enfants des mensonges plus gros qu'eux. Je pense par exemple au mensonge du bonhomme barbu qui, une fois par an, pointe son nez et sa hotte pour offrir des cadeaux aux enfants avant de repartir sur un véhicule à la croisée du tapis volant et de la charrette à bœufs. Ou à l'histoire des cloches qui larguent des œufs en chocolat dans nos jardins. Il nous arrive même de déformer la réalité sans même nous en rendre compte. Par exemple, quand nous donnons la béquée. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, une cuillère pour tonton, une cuillère pour tata. Pour être scientifiquement correct vis-à-vis de nos enfants, nous devrions dire « Une cuillère pour toi, mon chéri, une petite partie de la prochaine cuillerée pour tes bactéries bactéroïdes, une autre petite partie pour tes bactéries prévotella, et encore une minuscule portion pour les autres micro-organismes qui se sont mis à table dans ton ventre et attendent sagement d'être servis. » Par la même occasion, nous pourrions aussi transmettre nos amitiés aux collègues microbes qui nous assistent dans notre tâche nourricière. Quand nous donnons à manger, Bactéroïdes & Co. tendent elles aussi de petites cuillerées remplies de bonnes choses dans le ventre de l'enfant. Et elles le font sans distinction d'âge. Longtemps après que nous avons atteint l'âge de raison, nos bactéries intestinales continuent de nous donner la béquée. Toute notre vie, elles vont traiter des aliments que nous ne saurions pas décomposer sans elles et partager les restes avec nous. L'idée que les bactéries intestinales puissent influer sur l'ensemble de notre métabolisme et ainsi réguler notre poids n'a que quelques années. Pour commencer, voyons comment tout cela fonctionne. Quand les bactéries mangent à notre table, elles ne nous ôtent pas le pain de la bouche. Les bactéries intestinales colonisent très peu les parties de notre intestin grêle où nous décomposons et assimilons nous-mêmes notre nourriture. La concentration de bactéries est la plus importante là où la digestion est déjà quasiment achevée et où il ne s'agit plus que de transporter les restes non digestibles vers la sortie. Plus on se rapproche de la sortie de l'intestin, plus le nombre de bactéries par centimètre carré de muqueuse intestinale est élevé. C'est une répartition prévue pour durer et notre intestin est là pour éveiller. Si l'équilibre se rompt, si des bactéries pleines d'enthousiasme partent coloniser en masse l'intestin grêle, on parle de bacterial overgrowth. En français, c'est la colonisation bactérienne chronique du grêle, une maladie dont les symptômes et les conséquences sont encore relativement peu étudiés. Pour ce que nous en savons, disons qu'elle engendre des ballonnements, des maux de ventre, des douleurs articulaires et une inflammation de l'intestin ou encore des carences alimentaires et des anémies. C'est tout le contraire de ce qui se passe chez les ruminants. Prenons la vache, par exemple. Pour un animal de cette taille qui ne se nourrit que d'herbes et de végétaux, on peut dire qu'elle se débrouille plutôt bien. Aucun autre animal n'oserait la charrier sous prétexte qu'elle est végétalienne. Son secret ? Ses bactéries sont installées bien plus haut dans son tube digestif. La vache ne s'embête pas à digérer elle-même, elle délègue. Dans son intestin, une petite entreprise familiale, Bactéroïdes & Co., est directement missionnée pour traiter les glucides complexes des végétaux et préparer pour la vache un bon petit plat bien digeste. Il y a des avantages à loger ainsi des bactéries dans les étages supérieurs du tube digestif. Les bactéries sont riches en protéines. D'un point de vue nutritionnel, on peut donc les considérer comme de petits beefsteaks. Quand elles ont fait leur temps dans l'estomac bovin, elles prennent le toboggan vers les étages inférieurs où elles sont alors digérées. La vache dispose ainsi d'une formidable source de protéines, de délicieux petits beefsteaks microbiens faits maison. Nos bactéries ont élu domicile trop bas dans notre intestin pour pouvoir jouer les pièces de viande. Elles sont évacuées sans être digérées. Comme nous, les rongeurs ont installé leurs microbes en fin de parcours digestif, mais pour rien au monde, ils ne laisseraient cette portion de protéines bactériennes leur échapper. Ils mangent donc leurs excréments, tout simplement. L'être humain, lui, préfère se rendre au supermarché et y acheter de la viande ou du tofu. C'est une façon comme une autre de compenser son incapacité à assimiler les bactéries riches en protéines présentes dans son gros intestin. Si nous ne les digérons pas, nous tirons néanmoins profit de leur travail, car elles fabriquent des nutriments si petits que nous pouvons les assimiler via nos cellules intestinales. D'ailleurs, les bactéries ne se chargent pas de digestion que dans notre intestin, mais aussi à l'extérieur de celui-ci. Un yaourt, ce n'est rien d'autre que du lait prédigéré par des bactéries. Le sucre du lait, lactose, est en grande partie décomposé et transformé en acide lactique, lactate, et en molécules de sucre plus petites, ce qui rend le yaourt à la fois plus acide et plus sucré que le lait. L'acidification a aussi un autre effet. Elle entraîne la coagulation des protéines de lait et le lait se solidifie. Voilà pourquoi le yaourt n'a pas la même consistance. Le lait prédigéré, c'est-à-dire le yaourt, allège la charge de travail qui incomberait sinon à notre corps. Et nous n'avons plus qu'à nous occuper de la suite de la digestion. Là où les choses deviennent particulièrement intéressantes, c'est quand nous confions ce travail de prédigestion à des bactéries capables de fabriquer des substances qui ont un impact positif sur notre santé. Les fabricants de yaourts attentionnés utilisent donc souvent des bactéries qui produisent plus d'acide lactique dextrogyre que d'acide lactique lévogyre. L'acide lactique est une molécule chirale. Il possède deux formes qui se différencient par une configuration opposée, un peu comme si l'une était l'image de l'autre dans un miroir. Pour nos enzymes digestives, l'acide lactique lévogyre, c'est un peu comme mettre le pied droit dans la chaussure gauche. Inconfortable. Au supermarché, mieux vaut donc choisir les yaourts qui contiennent des bifidobactéries capables de produire l'acide lactique dextrogyre. Les bactéries ne se contentent pas de décomposer notre repas. Elles en profitent aussi pour fabriquer de toutes nouvelles substances. Un chou blanc, par exemple, contient moins de vitamines que la choucroute qu'il deviendra. Les vitamines supplémentaires, ce sont les bactéries qui les fabriquent. Dans le fromage, les bactéries et les champignons sont à l'origine du goût et de la consistance crémeuse, mais aussi des trous. Quant au cervelas ou au saucisson, on y ajoute souvent ce qu'on appelle des culture starters. Un joli mot pour dire « On n'ose pas le clamer haut et fort, mais ce sont les bactéries, et notamment les staphylocoques, qui font que c'est bon. » Quand nous buvons du vin ou de la vodka, nous savourons en réalité le produit final de la métabolisation des levures, c'est-à-dire l'alcool. Et le travail du petit peuple ne s'arrête pas dans le tonneau de vin, loin de là. Presque tout ce qu'un œnologue vous raconte sur le vin ne se trouve pas tel quel dans la bouteille. Les arômes qui apparaissent a posteriori, tels la finale du vin, ne se développent qu'ensuite parce que les bactéries ont besoin de temps pour faire leur travail. Installées à la base de notre langue, elles transforment déjà les aliments et les boissons, et les produits de cette transformation génèrent alors un arrière-goût. Chaque amateur de vin décèlera donc un goût légèrement différent en fonction de ses bactéries. Mais que cela ne nous empêche pas d'écouter attentivement ce que nous raconte notre gentil œnologue. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve quelqu'un pour nous parler de ces microbes avec tant de fierté. Notre population bactérienne buccale équivaut à peu près à 1/10 millionième de celle que nous avons dans le ventre. Et nous percevons quand même son travail. Notre tube digestif peut s'estimer heureux de régner sur un peuple si vaste et doté de compétences si variées. Tandis que des sucres simples, comme le glucose et le fructose, sont assez bien assimilés, beaucoup d'intestins ont du mal quand il s'agit de digérer du lactose. Leur propriétaire souffre alors d'une intolérance au lactose. Face aux glucides complexes des végétaux, Un intestin rendrait même carrément son tablier s'il devait avoir pour chacun l'enzyme de décomposition correspondante. Nos microbes, eux, sont des pros de ces substances. Nous leur offrons le gîte et le couvert. En échange, ils se chargent de ce qui est trop complexe pour nous. L'alimentation occidentale se compose à 90% de ce que nous mangeons et pour les 10% restants, de ce que nos bactéries nous donnent chaque jour à manger. Autrement dit, mangez 9 repas, le 10e vous est offert. Certaines de nos bactéries sont embauchées à plein temps pour nous donner la béquée. Et ce que nous mangeons a ici son importance, tout comme le type de bactéries qui nous nourrissent. Quand on parle de lignes et d'alimentation, on ne devrait donc pas songer qu'aux vilaines calories, mais aussi au petit peuple bactérien qui prend toujours ses repas avec nous. Chapitre 17. Comment les bactéries peuvent-elles faire grossir ? Trois hypothèses. Première hypothèse. Il y a trop de bactéries patapoufantes dans la flore intestinale. Si ces spécialistes du clivage des glucides prennent le dessus dans notre intestin, nous nous retrouvons avec un problème. Quand on regarde ce qui se passe chez les souris, on constate que les sujets minces éliminent une certaine proportion de calories non assimilables, mais pas leurs congénères dodus. La flore intestinale patapoufante des souris dodues tire le maximum de ce qu'on lui donne et se montre donc ensuite plus généreuse envers son hôte. Et si l'on transpose cette observation à l'être humain, certaines personnes pourraient se retrouver avec des poignées d'amour sans manger plus que les autres, tout simplement parce que leur flore intestinale tire plus de substances de la nourriture. Mais comment ça marche ? À partir des glucides non digestibles, les bactéries sont capables de fabriquer plusieurs acides gras. Les bactéries légumivores fabriquent plutôt des acides gras pour l'intestin et le foie. D'autres produisent des acides gras qui peuvent aussi nourrir le reste du corps. Si, pour un nombre de calories identique, une banane fait moins grossir qu'une barre chocolatée, c'est parce que les glucides d'origine végétale attirent plutôt l'attention des cantinières locales que celle des services de restauration actifs à l'échelle du corps tout entier. Les études menées sur des personnes en surpoids ont montré que leur flore intestinale était moins diversifiée et que certains groupes de bactéries, notamment spécialisées dans le métabolisme des glucides, y étaient majoritaires. Mais pour faire exploser la balance, ça ne suffit pas encore. Dans le cadre des expériences sur les souris de laboratoire, certains sujets pesaient 60% de plus qu'au départ. Un résultat auquel les services de restauration du corps ne peuvent pas arriver tout seuls. Il faut donc se pencher sur un autre marqueur de la prise de poids excessive. Les états inflammatoires. Deuxième hypothèse. Les troubles métaboliques comme le surpoids, le diabète ou les hyperlipidémies sont le plus souvent associés dans le sang à des marqueurs inflammatoires légèrement supérieurs à la moyenne. Les valeurs ne sont pas élevées au point de devoir mettre en place un traitement comme en cas de plaie importante ou de septicémie. C'est pourquoi on parle d'inflammation subclinique. Et s'il y a bien quelqu'un qui s'y connaît en matière d'inflammation, ce sont les bactéries. Elles ne sortent jamais de chez elles sans s'être poudrées le nez avec une substance sémiochimique qui crie au corps « Enflamme-toi !» C'est un mécanisme utile en cas de plaie. L'inflammation permet une sorte de lavage par débordement qui va repousser les bactéries vers l'extérieur. Au niveau de l'intestin, tant que les bactéries restent tranquillement dans leur muqueuse, leur message chimique n'intéresse personne. Mais en présence de certaines autres bactéries, ou quand l'alimentation est trop grasse, elles sont plus nombreuses à parvenir dans le sang, et notre corps active alors le premier niveau d'alerte du plan inflammation. Dans ce contexte, quelques réserves de graisse pour les temps difficiles ne peuvent pas faire de mal. Les messagers chimiques des bactéries peuvent aussi se fixer sur d'autres organes et influer sur leur métabolisme. Chez les rongeurs comme chez les êtres humains, ils se lient au foie ou aux tissus adipeux eux-mêmes et contribuent à ce que des réserves de graisse y soient constituées. Leur effet sur la thyroïde mérite aussi d'être souligné. Les médiateurs de l'inflammation viennent y jouer les fauteurs de troubles et ralentissent la production d'hormones thyroïdiennes. Résultat, les graisses sont moins bien brûlées. Contrairement à une vraie infection qui affaiblit le corps et lui ordonne une cure amaigrissante, l'inflammation subclinique fait grossir. Et il n'y a pas que les bactéries qui soient capables de déclencher des inflammations subcliniques. Parmi les causes observées, citons encore les déséquilibres hormonaux, un excès d'œstrogène, une carence en vitamine D ou une alimentation trop riche en gluten. Troisième hypothèse. Attention, ça va décoiffer. Une hypothèse émise en 2013 postule que les bactéries de l'intestin pourraient agir sur l'appétit de leur hôte. Autrement dit, les fringales qui nous font avaler des chocolats fourrés au caramel et un paquet de chips sur le cou des 22 heures ne seraient pas toujours induites par l'organe qui s'occupe aussi de notre déclaration d'impôt. Il y a dans notre ventre, et non dans notre cerveau, une assemblée de bactéries qui, quand elle a été mise au régime les 3 jours précédents, votera à l'unanimité un réapprovisionnement en burger. Et elle le fait avec tant de tact et de délicatesse que nous ne pouvons pratiquement rien lui refuser. Pour comprendre cette hypothèse, il faut se mettre à la place de la matière nourriture. Quand nous avons le choix entre plusieurs plats, nous décidons le plus souvent sur la base de ce qui nous fait envie. Et nous mangerons ensuite la quantité qui nous donnera une sensation de satiété. Or, les bactéries ont théoriquement les moyens d'influencer l'un et l'autre, l'envie comme la satiété. Pour l'heure, on ne peut que supposer